La théorie du fou. Poutine. Trump aussi, hein, ils sont un petit peu de la même trempe, c'est le cas de le dire. Hein. Non, mais on a toujours, vous savez bien, hein, le pouvoir, hein, c'est toujours ça. Hein. On a eu Hitler, on a eu Caligula, on a eu...
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Zoom Zoom Zen, chaque après-midi, 2 heures pour décrypter notre époque un peu folle sans oublier d'en rire. Et justement cet après-midi, alors que Donald Trump atteint désormais le ratio inouï jamais vu de 2 annonces délirantes par jour, on a décidé de zoomer sur ce qu'on appelle en géopolitique la stratégie du fou. Quand un dirigeant décide de faire semblant d'être fou, en tout cas imprévisible, pour déstabiliser ses adversaires et ses concurrents sur la scène internationale. Et c'est vrai qu'à un moment, il est peut-être sain de marquer une pause, de reprendre notre souffle et de se demander, Donald Trump veut-il vraiment imposer des droits de douane de 50% à tout le monde? Veut-il vraiment faire de Gaza la Côte d'Azur du Moyen-Orient? Veut-il vraiment envahir le Groenland? Ou bien fait-il juste semblant? Est-ce une tactique? La stratégie du fou est-elle efficace à l'échelle internationale? En tout cas ici, on peut l'affirmer, la stratégie du manager fou fonctionne admirablement. Diviser pour mieux régner, appeler Manon pour lui dire qu'elle est la meilleure et que Quentin est un nullos qui n'y comprend rien, appeler derrière Quentin pour lui dire que Manon est nulle et que si elle répète encore une seule fois le mot iconique, il la renvoie au move. Cyril Lacarrière, notre rédacteur en chef, ne recule devant rien pour asseoir son autorité, son emprise. Parmi les choses qui, le jour venu, feront certainement tiquer les prud'hommes, l'utilisation d'une clochette pour qu'on change le filtre de la machine à café.
Gérald, viens.
Ah, le son s'est évanoui. Alors là, il va y avoir des sanctions qui vont tomber.
Gérald, il y a un problème avec la machine à café.
En outre, quiconque a déjà assisté à une de nos conférences de rédaction, donc pas moi, le sait pertinemment, le manager fou ose tout. Et à la moindre critique, il prend la mouche.
Silence, chroniqueur de bas étage.
Manon et Quentin ont beau savoir qu'ils ne sont pas des chroniqueurs de bas étage, puisqu'on est au 6e. C'est dur, au quotidien, de subir la stratégie du manager fou. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Noël.
Et bonjour Frédéric Charillon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous cet après-midi sur Inter. Frédéric, vous êtes professeur des universités en sciences politiques à l'université Paris Cité, co-directeur du Centre géopolitique, défense et leadership à l'ESSEC. Vous enseignez aussi à Sciences Po, excellente école, on ne le dira jamais assez.
Jamais.
Vous avez publié fin février la géopolitique de l'intimidation, seul face à la guerre, point d'interrogation, chez Odile Jacob. Au détour d'une interview, vous avez eu ces propos. Trump prend la posture du fou, c'est pour lui une stratégie dont il est convaincu qu'elle représente une dissuasion efficace. De quoi s'agit-il? C'est ce que nous allons expliquer dans la prochaine heure. Juste le temps de vous présenter 2 journalistes qui subissent la stratégie du fou, d'où le rire nerveux de Manon en fin de journée. Manon Mariani, Quentin Louis, bonjour. C'est terrible
bonjour.
Ce qui vous arrive. Hein.
Bonjour,
c'est terrible. Heureusement que les prud'hommes seront là, au bout du chemin. Manon, chaque après-midi, outre la soutenir femme. Nos humoristes avec votre fameux hein, aussi strident que spontané, vous nous brossez également le portrait de l'autre personne à suivre.
Oui, le président. Je ne suis pas sûre qu'il soit à suivre, hein, mais le président de l'Argentine qui correspond parfaitement à cette théorie du fou qu'on va analyser aujourd'hui.
Javier Milei, face à vous, Frédéric Charillon. Lui, il a failli devenir fou et ce n'était pas une stratégie, juste une réaction épidermique. Quand il a appris l'autre jour que Intérieur Nuit s'était finalement déjà vendu à plus de 50 000 exemplaires, sauf que c'était pas son album, mais le livre éponyme de Nicolas Demorand. Quentin a failli en déchirer de rage son blouson Valentino Rossi. Comment un collègue avait-il pu se permettre d'usurper le titre de son groupe iconique? Ça va mieux, Quentin?
Oui, le nom. Le nom,
oui, le nom, le nom, oui, mais oui. Quand vous avez découvert
ça va mieux,
le titre,
ça
c'était...
va mieux. J'ai pris ça comme un hommage.
Vous avez pris ça comme un hommage?
Oui.
Alors qu'il ne sait même pas ce qu'est Intérieur Nuit.
On ne sait pas.
On ne sait pas.
C'est même pas qui vous
êtes.
Alors c'est vrai.
Vous allez loin.
C'est vrai qu'on ne sait jamais saluer.
C'est vrai. Quentin, vous n'avez pas les mêmes horaires, c'est juste pour ça.
C'est qu'on se croise pas.
Il fait la sieste, Nico, pendant Zoom Zoom Zen, qu'il appelle d'ailleurs Zoom Zoom Zoom. Quentin, aujourd'hui, votre quotidien, ce n'est plus intérieur nuit, c'est extérieur jour.
Oh, c'est
beau, oui. Vous partez à la rencontre des passants pour les faire réagir à notre mot du jour. Alors, la théorie du fou, il connaissait?
Ah, disons que Donald Trump m'a facilité la tâche sur ce coup-là. Est-il vraiment fou pour vous ou joue-t-il à être fou de façon stratégique? J'ai parlé de folie et de politique internationale ce jeudi et ça m'arrive pas tous les jours.
Vers 16h30, attention à ne pas confondre appliquer la stratégie du fou et être fou tout court. Dans le quiz, nous partirons à la rencontre de ces dirigeants qui, de Kim Jong-un à Paul Deschanel, ont prouvé que chez eux, c'était pas juste une stratégie. Juste avant 17h, nous retrouverons Lucie Carbone. Mais d'abord, Frédéric Charillon, est-ce que cette théorie du fou, elle s'applique qu'en politique, aux dirigeants, ou elle s'appelle aussi, elle s'applique aussi aux chefs d'entreprise, par exemple?
Elle peut s'appliquer, vous avez raison, à toute personne qui détient une autorité. Parce que le but de la stratégie du fou, c'est de dire, vous savez pas jusqu'où je peux aller. Je peux même faire des trucs complètement irrationnels, qui ne vous traversent même pas. pas encore l'esprit. Et donc, ça peut marcher partout. Le dirigeant, il y a beaucoup de dirigeants pour qui c'est même une stratégie de communication, de passer pour extrêmement original. Alors, souvent, quand on est poli, on dit extrêmement original. Mais auprès de son propre, de ses propres collaborateurs, c'est peut-être moins drôle. Et c'est quand même de la stratégie du fou, ça arrive certainement. On ne citera pas de messieurs, ça arrive, oui, sûrement.
On va revenir sur la généalogie de la stratégie du fou pour voir où c'est né, justement. Est-ce que c'est né dans l'entreprise ?
Dans l'université, vous savez, il y a eu des époques de mandarinat, comme ça, où vous avez des profs qui jouaient beaucoup là-dessus. Des espèces de Orson Welles de la science politique, si je puis dire, ou de la sociologie, ou de l'économie, ou du droit. Bien sûr, ça compte.
Face à vous, Frédéric, le voici, le manager fou. Celui qui, lorsque je lui demande comment il m'a trouvé après une émission, me répond toujours...
T'es qu'une merde.
Alors que moi, je le couvre toujours de louanges après chacun de ses doux assorts, hein, depuis le début. Hein. Ouais, justement, Cyril...
Pas sûr.
Il est temps de nous dire, Cyril, la stratégie du fou, d'où ça sort.
C'est à la fin des années 50 que cette notion a vu le jour, d'abord grâce à un certain Daniel Ellsberg, 1959. Si son nom ne vous dit rien, sachez qu'il est considéré comme un des tout premiers lanceurs d'alerte. Il avait donné à la presse près de 7000 pages de documents top secret sur les mensonges de l'administration américaine concernant la guerre du Vietnam. Cela lui a valu d'être surnommé par Henry Kissinger comme étant l'homme le plus dangereux d'Amérique. Daniel Ellsberg va donc théoriser cette logique de théorie du fou. Il sera suivi d'ailleurs par l'économiste Thomas Schilling.
Mais l'expression, Cyril, on la doit à quelqu'un d'autre.
Oui, à un homme qui s'y connaissait bien, rayon folie, le président américain Richard Nixon. On la retrouve dans un mémoire co-signé par l'assistant du président. L'idée de Nixon, c'était de faire croire aux Russes qu'il était capable de tout, que c'était le mec totalement imprévisible. Que si on l'énervait, il pouvait appuyer sur le bouton rouge et bim, faire tout sauter. Un exemple en 1969. On est en pleine guerre du Vietnam, Nixon lance l'opération Giant Lance, la lance gigantesque. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie des bombardiers nucléaires près de l'URSS, juste pour mettre la pression sur Brejnev. On ne sait pas si Brejnev s'est inquiété, mais ça vous donne une idée de ce qu'on entend par cette stratégie ou théorie du fou. C'est la même chose quand Donald Trump dit que la Corée du Nord sera traitée avec, je le cite, « le feu et la fureur ». Et finalement, il ira serrer la main de Kim Jong-un. Alors, est-ce que la théorie du fou, ça peut se transformer en stratégie du faible ? Qui se dit fou et qui est vraiment fou ? Qui gagne à la fin ? Le faible, le fou ou le fort ? Et le président normal, du coup, il devient quoi dans cette histoire ? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Président Hollande.
Oui, président Hollande.
Merci Cyril Omsien, en régie, que vous avez glissé finement dans cette chronique. Votre petit surnom dans l'intimité, je laisserai nos auditeurs la réécouter. Frédéric Charillon, finalement, d'après ce que nous dit Cyril, jouer au fou, il vient de la comprendre, jouer au fou, c'est plutôt intelligent, finalement.
Oui, c'est intelligent. Sauf qu'il y en a, on se demande quand même si, quelque part, il n'y a pas quelque chose de déséquilibré. Vous parlez de Nixon à l'instant. Nixon, à un moment, on raconte qu'il avait dit à Kissinger et à ses collaborateurs ou à ses conseillers, si jamais un jour je vous demande de lancer une guerre nucléaire, attendez le lendemain, parce que ça m'arrive d'être en colère. Bon, quelque chose comme ça. Il y a un documentaire vidéo qu'on peut retrouver sans doute d'ailleurs facilement sur Internet, où on entend plus exactement, parce que ce sont les enregistrements de la Maison Blanche, où on entend Nixon en conversation avec Kissinger, et on entend Kissinger qui essaye de calmer son Nixon qu'il connaît par cœur. Nixon dit pourquoi tu veux pas me laisser utiliser l'arme nucléaire au Vietnam?
Ah oui.
Et Kissinger dit ça serait un peu excessif quand même. Bon, mais pourquoi tu mégotes? Kissinger essaie de le calmer avec des trucs épouvantables en disant par exemple on pourrait bombarder les berges ou le barrage, ça ferait, alors l'autre dit que ça ferait quoi, 200 000 morts, 300 000 morts, oui c'est ça à peu près, la bombe nucléaire, et donc on a des moments comme ça.
Mais ça contredit presque ce que nous disait Cyril, c'est qu'il joue pas au fou.
Non,
Nixon était un petit peu fou et il y avait des gens pour faire contre-poids.
Sauf qu'il le contrôle et qu'il le ferait pas. Et qu'il fait ça aussi pour s'imposer vis-à-vis de son propre entourage.
D'accord.
Et je pense que là, il y a une stratégie. Alors sinon, oui, c'est intelligent parce que ça permet de dissuader l'autre. Alors il y a eu d'abord des exemples dans des petits pays. Il y a quelques années, il y avait... on se souvient de Chavez au Venezuela, qui aimait bien jouer ce personnage, qui allait aux Nations Unies en se signant d'un signe de croix, en disant juste avant moi, il y avait le président américain George Bush. D'ailleurs, le diable était là avant moi, ça sent encore le souffle, et il se met à se signer.
Et tout ça, c'est dans du théâtre.
Il avait fait état de théories sur accusant les États-Unis d'avoir provoqué provoquer des séismes sous-marins, des tsunamis, et volontairement, etc. C'était juste pour asseoir ce personnage-là. Il y en a eu d'autres qui l'ont fait pour montrer qu'ils étaient capables de violence. Et alors, le seul, aujourd'hui, qui l'a théorisé explicitement, c'est Trump. Parce que Trump, dans une interview un petit peu avant sa prise de fonction, un journaliste lui demande « Qu'est-ce que vous feriez si la Chine attaquait Taïwan ?» Et il répond « Ils ne le feront pas parce qu'ils savent que je suis complètement dingue. » Fucking crazy en anglais. Et voilà. Et ça, c'est le seul à avoir dit ça explicitement.
Du coup, la théorie du fou, c'est pour inspirer la peur ?
C'est pour inspirer la peur. C'est d'ailleurs, et pour attirer l'attention sur soi. Je veux dire, on le voit avec Trump, ça marche. Le monde entier, chaque jour, vit au rythme...
Et suspendu à ses annonces.
Bah oui, le moindre show de Donald Trump, ouais.
Il est intéressant ce mot fou, parce que c'est pas forcément... Ça peut être aussi un compliment. Un fou de travail, il va le faire, ouais, parce qu'il est fou. Il est fou.
Oui, alors là, dans ce cas-là,
ça ne sera pas
un compliment, mais ça sera quand même, ça peut être un hommage. C'est vrai qu'on peut le dire de façon admirative, il est complètement fou.
Oui.
Mais là, avec crainte, et c'est ça qui est recherché.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Trump joue-t-il au fou ou bien l'est-il vraiment un peu ? Sa coloration jaune urine du matin plaide pour la deuxième option, mais on zoome cet après-midi sur ce qu'on appelle la théorie du fou. Frédéric Charion, professeur des universités en sciences politiques et auteur de Géopolitique de l'intimidation chez Odile Jacob, est avec nous pour essayer de comprendre cette notion. Est-ce qu'on use de cette théorie quand on n'a finalement pas les armes nécessaires pour se faire respecter ? Ce qui est paradoxal quand on est le président des États-Unis.
Alors, ou alors quand on se sent soi-même fragile, parce que ce qui est frappant avec Trump, c'est qu'il est fort avec les faibles, mais il est très faible avec les forts. C'est-à-dire qu'il joue la stratégie... C'est un truc à plusieurs bandes. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il joue au fou pour essayer de se donner la posture du fort, mais en réalité, ce qu'il cache mal, c'est son extrême faiblesse. Avec la Russie, c'est évident, même d'une certaine manière avec la Chine. Et dans le premier mandat, on l'avait vu un petit peu, il a souvent désavoué ses propres services de renseignement pour abonder dans le sens d'une puissance étrangère. Alors c'était l'Arabie Saoudite, c'était Israël, c'était d'autres. Mais il y a quand même une grande faiblesse chez lui.
Mais est-ce que la stratégie du fou, elle peut être payante sur le long terme ? Parce que là, le mandat de Trump, il vient à peine de commencer, il fait des centaines d'annonces, mais il faut avoir les moyens de ces annonces aussi. Si au bout de quelques mois, on se rend compte qu'il ne met pas à exécution ou qu'il recule sur plein de dossiers, on comprendra que c'était juste une stratégie.
Ben, vous avez raison. C'est-à-dire que la stratégie du fou, comme toute stratégie, ça se pense avec modération et ça se dose avec minutie. C'est-à-dire que l'intimidation, c'est un peu comme les impôts. Si je puis dire, c'est trop d'intimidation, tue l'intimidation. C'est-à-dire que si
Quentin
tous les jours...
aime cette comparaison.
Si tous les jours, il menace tout le monde sans distinction et qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de ciblage, il n'y a pas de stratégie, que ça va devenir... D'abord, il va y avoir une réaction de plus en plus forte des différents pays qui vont commencer à lui dire non. Là, jusque-là, tout le monde essaie de le calmer. Il dit ça, mais on va essayer, on va voir comment il faut le prendre.
On n'est pas entré dans la guerre commerciale.
On n'est pas encore entré dans le vif du sujet. Donc, et puis, il va se heurter à la complexité des relations internationales, mais comme la première fois. Rappelons-nous, il a dit la guerre en Ukraine, moi, en 24 heures avec moi, ça sera fini. On n'en est plus là. La Riviera du Moyen-Orient, on va voir. Le deal du siècle sur la Palestine dans son premier mandat, c'était pareil. Quand il a dit, vous allez voir, en Corée, je vais ramener la paix dans la péninsule coréenne, il est allé trois fois rencontrer, vous l'avez rappelé tout à l'heure, Kim Jong-un, il ne s'est rien passé du tout.
Manon.
Il est quand même un peu rentré là-dedans. Ça fait, il a passé quoi, 70 décrets depuis son investiture en janvier, qui visent notamment les minorités. Donc là, on est plus dans une stratégie, on est dans un accomplissement aussi de sa folie.
Mais sans stratégie, justement. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on va s'apercevoir qu'il n'y a pas de plan. Et que peut-être cette espèce de frénésie médiatique, de saturation de l'espace médiatique permanent, vise, alors c'est une stratégie si on veut, mais c'est une stratégie qui vise à masquer une absence de stratégie. C'est donc une petite stratégie.
Mais on va vraiment s'en apercevoir, selon vous, à un moment ?
Ah, je pense que oui. D'abord parce qu'aux États-Unis, il va y avoir un choc économique. C'est-à-dire qu'il va y avoir de l'inflation. Mmh. Ensuite, je pense qu'il y a beaucoup de pays dans le monde qui ne seront pas disposés très longtemps à se demander simplement comment on calme le monsieur. Il y a des pays, des grands pays, la Chine bien évidemment, mais l'Inde, même le Japon et d'autres, au bout d'un moment, vont dire ça suffit. Moi, ce que je redoute en réalité, et c'est là où on peut se demander s'il n'y a pas un déséquilibre psychologique chez l'individu, Trump c'est particulier. On a dit tout à l'heure, il y a des gens qui ont joué au fou, même Poutine joue au fou. Quand Poutine, en Ukraine, voit que ça ne se passe pas comme prévu et qu'il ressort l'option nucléaire de façon extrêmement pernicieuse, etc. Il joue en quelque sorte au fou en disant, vous savez, vous me connaissez, mon personnage froid, cynique, distant, je suis capable de tout. Il joue un petit peu au fou, mais il a un plan. Trump, je ne crois pas, Trump, il y a un ego monstrueux. Cette façon de parler de lui tous les jours en se citant lui-même, en écrivant son nom en lettres majuscules, seul Trump, c'est que le monde entier sait que Trump, etc. C'est, souvent, je disais un peu, c'est comme la vieille chanson de Daniel Balavoine, et partout dans la rue, je veux qu'on parle de moi, etc. etc. Je m'arrêterai là sur, les paroles de la chanson.
Quentin peut la reprendre à Canela.
Il y a de ça. Et moi, ce que je redoute absolument, c'est le jour où, justement, il risque de ne plus être pris au sérieux, où la communauté internationale va dire ouais, encore une Trumpitude. Et là, il va être extrêmement vexé. Et là, on ne sait pas ce qu'il va faire à ce moment-là.
Mais est-ce que l'économie, c'est pas le meilleur garde-fou possible, en tout cas pour les Américains? Parce qu'on sent, par exemple, qu'un Musk, qui est quand même bien redescendu de son nuage depuis la vente de Tesla.
Bah, certains l'annoncent même partant.
Oui.
Donc l'économie, ça va être un garde-fou.
Il y a des réalités. Je veux dire, dans la vie internationale, il y a une réalité d'abord géopolitique, il y a un rapport de force, et puis il y a une réalité économique. C'est-à-dire qu'il a été élu en promettant un âge d'or aux Américains. Alors si cet âge d'or se concrétise, pourquoi pas? Laissons-lui le bénéfice du doute. Admettons qu'effectivement, dans un an, l'économie aille très bien, que les gens qu'il a virés de partout n'aient pas d'impact sur le fonctionnement de l'administration et que ça fait baisser la dette. Pourquoi pas? Mais si ça ne se passe pas bien, que l'inflation augmente, et que les gens sont absolument furieux, il va avoir à ce moment-là évidemment de gros problèmes.
Vous dites, pour être crédible dans l'intimidation, la stratégie du fou doit montrer concrètement, régulièrement, sinon fréquemment, de quoi elle est capable. La réaction disproportionnée, l'acte brutal qui se moque des réactions indignées des modérés, la politique du pire, le coup d'éclat au risque de l'engrenage, fait donc partie de sa boîte à outils.
Ouais. Et c'est là où, par exemple, quelqu'un comme Poutine est plus crédible pour le moment dans la théorie du fou, dans la stratégie du fou. C'est-à-dire que Poutine, nous savons qu'il est capable. On a vu, dès le début d'ailleurs, dès qu'il est arrivé au pouvoir, on l'a vu à l'œuvre en Tchétchénie, on l'a vu à l'œuvre en Syrie, beaucoup plus tard, on l'a vu à l'œuvre même en Géorgie. Donc on sait que quand Poutine menace, il faut quelque part se dire que ça pourrait ne pas être du bluff. Trump, pour le moment, attendons de voir.
La stratégie du fou, pour réussir avec cette stratégie, il ne faut pas être fou, en fait. C'est ça un peu l'idée.
Exactement. Et puis, il faut même être très bon stratège.
Voilà. On va reparler de Vladimir Poutine juste après. Il est un peu redescendu depuis jeudi dernier, quand il a appris que Nicolas Demorand avait piqué le nom de son groupe de rock indé pour son nouveau livre. Il avait presque perdu son sang-froid, annonçant, je le cite, que Demorand était grillé dans le métier, en tapant nerveusement sur son bureau. Quentin, maintenant que vous avez digéré la sortie d'Intérieur Nuit...
J'ai digéré, j'attends juste qu'il m'en envoie un.
Comment ça, vous l'avez perçu?
Non, je l'ai perçu.
Non, c'est vrai.
On l'a tous reçu.
Dans la matinale.
Dites-nous paisiblement, dans quel coin de Paris êtes-vous allé discuter de cette théorie du fou?
Je suis au pied de la colonne de la Bastille, symbole de la Révolution française, quand je rencontre Adam. Il part se poser sur les quais avec son repas emporté dans son sac en papier craft. Que fait-il dans la vie?
Je travaille au Buffalo Grill. Je suis agent de restauration. La théorie du fou? Franchement, je connais pas. Hein. C'est quoi la théorie du fou?
Et je lui montre un article de West France qui mentionne cette théorie utilisée par Trump pour instaurer un rapport de force.
Ok, j'ai capté. On l'a toujours pris pour un fou, Trump. Mais il est pas fou. Croyez-moi, il est pas fou. Il est très intelligent. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit. Il fait exprès. Il dit des trucs pour buzzer, je pense. Ah, il y en a plein, ils font ça. Hein. Il y a des gens, Bon, après, ça n'a rien à voir, mais les gens, ils vont tuer quelqu'un, ils vont se passer pour un fou pour pas aller en prison. Donc, c'est une manière de voir les choses, de jouer le fou.
J'arrête Katia maintenant, elle a 36 ans. Je lui demande si Trump joue à être fou.
Je pense pas. Je pense qu'il est vraiment fou. C'est quelqu'un qui veut tout. Voilà.
Vous venez d'où?
Je suis ukrainienne.
Avec Katia, on parle de cette passe d'armes médiatique où Volodymyr Zelensky se fait humilier par Donald Trump et son entourage dans le bureau ovale.
Pour moi, c'était un piège. C'est un côté imprévisible de Trump. Et en même temps, c'est prévisible. Et donc, oui, c'était étonnant. C'était quand même une situation.
Zelensky a été peut-être même surpris. Il a eu jusque-là, je pense.
Oui, je pense. Et on peut bien voir sur son visage qu'il était surpris.
Oui, ce côté imprévisible, irrationnel et incontrôlable a scotché le président ukrainien qui a quitté la Maison-Blanche dans les minutes qui ont suivi cette rencontre. Assis sur un bloc en granit, je vois cet homme maintenant qui, franchement, lézarde au soleil.
Bonjour, bonjour.
Bonjour.
Quel est votre prénom à vous?
Bertrand.
Bertrand, vous avez quel âge?
44.
Vous faites quoi dans la vie?
Je suis comédien, je suis intermittent du spectacle.
Je lui propose de discuter de cette théorie du fou, où Donald Trump nous sert de très bon exemple. J'ai une question pour lui.
Est-ce que tu as déjà joué un fou?
Est-ce que j'ai déjà joué un fou? Oh, tiens, très bonne question. Oui, une fois, oui. Faut surjouer.
Tu vois ce que lui, il surjoue?
Ah ouais, je trouve, ouais. Ah ouais, carrément. Tu fais le lien avec le théâtre. On est sur un homme politique qui met en scène, et qui met en scène même son visage.
Tu parles du portrait officiel ?
Ah oui, tiens, par exemple, exactement. Le fait de vouloir faire peur. Et là, depuis sa réélection, tout est fait pour, quoi.
C'est vrai qu'il est troublant, ce portrait officiel, qui est d'ailleurs le copier-coller de sa photo lors de son inculpation par un tribunal d'Atlanta. Le regard qui fusille, le sourcil relevé. Je discute maintenant avec Olivia et Manon, qui ont entendu parler de cette théorie du fou.
Enfin, on en a parlé, là, le truc de la tronçonneuse, je sais pas quoi, avec Elon Musk et Trump.
Javier Milei.
C'est l'Argentin ou pas du tout ?
Si, oui, c'est le président argentin.
Ouais. Il y a un truc de mise en scène avec la tronçonneuse. Fin...
Je pense qu'on voit juste que les gens ont besoin d'un leader. Quelqu'un qui va brasser beaucoup d'idées, plus c'est gros, plus ça passe. Enfin, dans une moindre mesure, mais quand même, ici, on a Cyril Hanouna qui dit des folies et qui rassemble énormément de gens.
Hanouna n'est pas encore en politique.
Non, bien sûr que non, mais en vrai, il pourrait, en fait. Il n'est pas très loin, je veux dire, Trump, il a commencé comme ça. Enfin, maintenant, plus rien ne pourrait me surprendre. On est dans un monde de fous, maintenant.
Ma dernière rencontre, c'est cette dame, canne à la main, qui s'assoit sur un banc en observant la place.
Ben, bonjour, jeune homme.
Quel est votre prénom à vous ?
Dominique.
Vous avez quel âge, Dominique ?
Ah, une femme a toujours 35 ans, mais j'en ai un peu plus, oui. 77.
Alors, à qui pense-t-elle lorsqu'elle lit ?
La théorie du fou. Ben, Poutine. Trump aussi, hein, ils sont un petit peu de la même trempe, c'est le cas de le dire. Hein. Non, mais on a toujours, vous savez bien, hein, le pouvoir, hein, c'est toujours ça. Hein. On a eu Hitler, on a eu Caligula, on a eu... La plupart, malheureusement, des grands, grands dictateurs avaient une sorte de...
Une sorte de folie, un petit grain, la folie des grandeurs, sans doute. Elle insiste sur ce face-à-face Trump-Poutine.
C'est deux coqs qui s'affrontent, quoi. Et puis, la basse-cour, bon, bah, elle essaie de se débrouiller pour montrer un petit peu son nez, mais c'est...
Quel rôle a notre président Macron dans cette basse-cour ?
Je ne sais pas, moi, le poussin. Il serait un petit peu le paon aussi, le paon qui fait la roue, qui a la beauté de son plumage, mais qui ne fait pas peur aux animaux prédateurs, quoi.
Belle métaphore.
Oui, c'est vrai. Ah ben, c'était mon métier, jadis.
Tu dis quoi ?
J'étais professeur de lettres.
Ah. Il vous inspire ce thème dans la rue. Faut-il être fou pour être craint dans les relations internationales ? Comment distinguer le fou de celui qui joue à l'être, d'ailleurs ? De mon côté, la seule folie qui m'a attiré ici même dans ce studio autrefois était celle du fou du roi. Avec Demorand, la boucle est bouclée.
C'est beau, le fou du roi, l'émission dans laquelle j'ai commencé en radio, vous n'êtes pas sans le savoir.
Ah ben j'ai évidemment imprimé votre biographie.
J'espère bien, Quentin, sinon vous ne serez pas là la saison prochaine. C'est une bonne nouvelle. Frédéric Chaillon, ça c'est intéressant cette question. Qu'est-ce qu'on fait face, en réponse à une stratégie du fou ? Dominique parlait d'Emmanuel Macron, de l'attitude à adopter, c'est pas facile.
D'abord, ça dépend de savoir, c'est la question qui nous anime depuis tout à l'heure, si la personne est vraiment, si on a affaire vraiment à un fou, ou c'est quelqu'un qui joue le fou, ce qui n'est pas du tout la même chose. Si c'est quelqu'un qui joue le fou, il fait ça pour nous intimider. Donc la seule réponse, c'est de montrer que nous ne le sommes pas. Et donc il faut être ferme. C'est ce que doit faire, je crois, aujourd'hui l'Union européenne. Après, il peut arriver qu'on ait affaire à des gens qui aient effectivement un caractère, sans être fou au sens psychiatrique ou médical du terme, mais qui peuvent avoir quand même des biais psychologiques importants. Et j'exclus pas que dans le cas de Trump, il y ait les deux à la fois. Et d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure de ce problème qu'il y a eu avec Zelensky à la Maison-Blanche, qui était quand même une scène, c'est vrai, extraordinaire. On se demande si, effectivement, c'était prémédité ou pas. Si c'est prémédité, on est dans la stratégie du fou. C'est-à-dire que je vais tout faire exploser, je vais casser tous les codes. Il y a une autre hypothèse qu'il ne faut peut-être pas exclure. C'est vrai que tous les gens qui ont cette expérience, y compris des anciens présidents de la République en France, j'entendais François Hollande, disent qu'il n'y a aucun doute, quand on voit la scène, c'était prémédité. C'était prémédité pour Jack Vance, sans aucun doute. Pour Trump, je me demande si... Pour Trump, je me demande aussi s'il n'y a pas autre chose. C'est-à-dire qu'il a fait cette mise en scène, c'est une mise en scène. C'est-à-dire d'abord, les journalistes sont là, c'est filmé, ce qui n'est normalement pas très sérieux pour ce genre de discussion. Ouais. Donc tout est mis en scène pour lui, pour sa propre gloire, pour montrer à son public MAGA, c'est-à-dire ses supporters, regardez avec moi, vous allez voir, il va venir plier le genou par terre, se soumettre, etc. Il veut montrer ça à son public. Et ça ne se passe pas comme prévu, c'est-à-dire qu'il tombe sur Zelensky qui lui lui dit non, ce dont tu n'as plus du tout l'habitude. Et là effectivement, il pète les plombs, si je puis me permettre.
Le portrait officiel, je vous ai vu réagir aussi, on parlait avec ce comédien du portrait officiel de Donald Trump, qui a une part de folie assumée.
Oui, là, c'est forcément assumé, parce que c'est pas, il a pas fait un selfie tout seul. Enfin, il y a toute une équipe derrière. Il a choisi cette photo. Donc là, ça ne peut être que calculé. Il a voulu cette photo pour lancer un message. Ce message, c'est justement, regardez-moi bien, avec moi, ça va pas traîner et je suis capable de tout.
Il reprend aussi la photo du mugshot.
En plus. Alors, je crois qu'il y a aussi une volonté de vengeance extrêmement forte chez cet homme.
Oui,
et puis
ça, revanche sur la justice.
Surtout sur la terre entière. Et puis une sorte aussi d'excitation. D'état de grâce depuis son tentative ratée d'assassinat, où je pense qu'il se sent omnipotent pour le moment. Il a déjoué tous les sondages. Il a eu plus d'une trentaine de chefs d'inculpation contre lui. On a tout dit, il a eu toute l'intelligence américaine contre lui. Et il gagne haut la main. Et en plus, on essaye de l'assassiner, ça ne marche pas. Il est dans une phase d'omnipotence.
Est-ce que les réseaux sociaux participent à cette théorie du fou? Je prends X, par exemple, réseau d'Elon Musk, où il prône la liberté d'expression. Ça a été le réseau, ça l'est encore utilisé par Donald Trump, c'est là où en fait il a commencé un peu à montrer aussi à tout le monde sa folie.
Oui, mais en plus les réseaux sociaux donnent une caisse de résonance immédiate et mondiale à toute stratégie de communication, celle du fou là en l'occurrence, mais ça peut être bien d'autres. C'est sûr que ça change tout en dimension, parce qu'on a connu, même chez nous, je veux dire, le général de Gaulle n'est pas tout à fait dans la stratégie du fou, mais cette façon qu'il avait de dire attention, moi je suis capable de tout, parce qu'il pensait d'abord à la dissuasion. L'idée c'était de dire il faut que la personne dont dépend la détermination à utiliser l'arme atomique soit quelqu'un de redouter et que tout le monde dans le monde entier se dise il est capable de tout, y compris de ça. Donc il nous gratifiait de temps en temps de choses étonnantes. Vive le Québec libre, c'est rien à côté de ce que fait Trump, mais c'était quand même...
Oui, voilà, pour l'époque, c'était
ce genre de choses était toujours étonnante. Trump, évidemment, il va beaucoup plus loin et il a les réseaux sociaux avec lui.
France Inter. Zoom Zoom Zen.
Alors qu'on zoome aujourd'hui sur la stratégie du fou, qui semble être celle de Donald Trump, je vous propose à présent de jouer avec ces dirigeants qui, eux, ne jouent pas au fou. Ils le sont vraiment, à l'instar de Cyril Lacarrière quand il oblige Manon à terminer sa viande au restaurant. Jouons au Zoom Zoom Test. À la rencontre donc de vrais zinzins qui nous dirigent. Et on commence justement là où tout devrait aussi finir, dirait Cyril, en France. Et plus précisément, en 1920, Cyril vient de perdre son pucelage auprès de Marie-Bonne Clairvaux, tenancière de la Maison de Plaisir au Gaillard Comblé, rue Blanche. Et sur le plan politique, c'est ça qui intéresse nos auditeurs. Paul Deschanel est élu à la présidence de la République avec 84% des voix. Un mandat éclair, car il est apparu rapidement que ce président Deschanel n'avait pas toutes les ampoules allumées. Preuve en est. On l'a retrouvé errant dans la campagne en pyjama après être tombé du train. On l'a retrouvé nu dans une fontaine. Ou on l'a retrouvé en train de jouer la Marseillaise à la flûte à bec.
B. Je crois que c'est B.
A B.
AB.
AB.
Non,
AB. Excellente réponse de A-B. Manon Mariani au hasard. AB, effectivement. Tout le monde a entendu parler de Deschanel, le président fou qui avait sauté du train en pyjama, mais on sait moins qu'une autre fois, il avait été retrouvé nu dans une fontaine. En revanche, il était très mauvais à la flûte à bec, en tout cas beaucoup moins bon que Cyril, qu'on entend ici. Suite
en direct,
à ces deux pétages de plomb, sachez que le président Deschanel a démissionné 7 mois seulement après son élection, pour ce qui était, semble-t-il, en fait une énorme dépression. Il fera son retour en politique comme sénateur 4 mois plus tard, bel exemple de résilience. À une époque où on parlait peu de santé mentale, on disait juste que vous étiez fou. Et maintenant, direction le Turkménistan, un pays méconnu, assez secret, que même Pierre Courade n'a jamais visité. Partons à la rencontre de Saparmirat Niyazwo, le très cool président turkmène qui nous a quittés, hélas, en 2015. D'après vous, Manon, Quentin, laquelle ou lesquelles de ces affirmations est fausse concernant ce Saparmirat? Il a dénommé le mois d'avril qui porte maintenant le prénom de sa mère. Il avait une statue en plaqué or de 80 mètres de haut qui tournait avec le soleil, où son autobiographie était le seul manuel scolaire autorisé.
Donc là, c'est la fausse qu'il faut dire.
Non, c'est vous.
A et B.
Laquelle est fausse ?
Laquelle est fausse ? Voilà. A.
Il n'y a pas qu'un livre sur sa biographie. C.
Je réalise en direct que la question était mal formulée.
La réponse était
ni A, ni B, ni C. Tout était vrai.
Mais vous avez vraiment mal formulé. Hein.
Et donc, je vous donne un point chacun. Pittoresque Turkménistan, dont vous entendez ici la chanson traditionnelle bouleversante ode à l'amour, où l'interprète semble avoir urgemment besoin d'un imodium. Eh bien, sous le fantasque règne de Saparmirat, tout un tas de règles farfelues avaient cours. Par exemple, les fonctionnaires turkmènes étaient évalués chaque année grâce à un quiz sur son propre livre. C'est un peu comme si Quentin devait être augmenté en fonction de ses réponses dans le Zoom Zoom Test.
Thomas Pesquet.
Non, il aurait donc pas un centime d'augmentation surtout depuis 2022. Mais attention, on continue notre tour du monde des cinglés. Notre prochain leader de la zinzinade était un créa, avec beaucoup d'imagination puisqu'il s'est autoproclamé dernier roi d'Écosse. Il voulait prendre la tête du Commonwealth tout en essayant de pécho la reine Elisabeth à qui il avait proposé de venir dans son pays afin de rencontrer un vrai bonhomme d'1m90 et 120 kilos. Qui se cache derrière cet artisan du rapprochement des peuples? Jean Bedel Bokassa, le centrafricain? Idi Amin Dada, l'ougandais? Ou Ramzan Kadyrov, le sympathique tchétchène?
C'est...
Pourquoi?
Je sais pas. D'accord. C'est la façon dont
je vais dire B, moi.
Pensez que c'est Amin Dada qui a proposé ça, qui voulait pécho la reine d'Angleterre.
C'est pas Bokassa.
C'est une bonne réponse de Quentin. Ah, le dernier roi d'Écosse a même été un film avec Forest Whitaker dans le rôle du dictateur. Petite info bien utile pour un trivial poursuite. Jean Bedel Bokassa, lui, ne se serait jamais permis tout ça, tant l'homme se la jouait plutôt discret avec notamment cette cérémonie qu'il avait organisée pour fêter son autocouronnement. 10 000 couverts, soit un quart du budget annuel du pays, filmé par le service cinématographique de l'armée française. C'est ça aussi, le gai savoir. Et maintenant, si on jouait à Kim Jong ou Kadhafi?
Oh là.
Kim Jong ou Kadhafi, il a interdit la vente et l'achat de manteaux en cuir.
Kim Jong.
Kadhafi.
Kim Jong. Kim, bonne réponse de Manon. Voilà pourquoi Pierre Courat n'ira jamais en Corée du Nord. En effet, depuis que Kim Jong porte une veste en cuir, c'est devenu trop à la mode en Corée du Nord. Emporté est donc désormais considéré comme une atteinte à l'autorité de la plus haute dignité. Mais attention, top. Kim Jong ou Kadhafi, il a fondé son propre girl band dont il a lui-même choisi les chanteuses.
Kadhafi.
Kim Jong.
Bonne réponse de Quentin. Kim Jong, le groupe
s'appelle Kadhafi.
Ça peut être les deux ou pas?
Il avait des Amazones, Kadhafi.
Il avait des Amazones.
Son service de sécurité.
Ah, mais c'était pas un girl band. Elle chantait pas. Là, ça chante. Le groupe s'appelle Morambong Band, dont on va tout de suite écouter le banger, Tansume. D'après Kim Jong, Justice leur a tout piqué.
On les entend pas.
Mais comment ça? Si, c'est instrumental. Comment on les entend pas?
C'est pas les L5.
Mais moi, je mets le violon. C'est magistral. Hein.
Ah oui, c'est beau.
C'est très, très bon. En Russie, l'équivalent pour Poutine, un homme comme Poutine, avec deux, trois jeunes filles qui chantent comme ça. Sauf que c'est pas lui qui les a choisis. Il les a félicités seulement.
Ah, là, il les a choisis une par une. Et c'est vrai qu'il y a un truc. Mais attention, on repart. Kim Jong ou Kadhafi, il a proposé à Frédéric Mitterrand de passer une nuit avec lui.
Oh, Kadhafi.
Kadhafi, évidemment. Évidemment.
Une sacrée surprise.
Ah, oui, car selon les termes même de Frédéric Mitterrand, qui était parti l'interviewer à la fin des années 70, le colonel lui a proposé de passer une nuit avec lui sous la tente.
Sacré colonel.
Et enfin, terminons avec le prince de Thaïlande, Ramadis. Outre avoir adopté le style streetwear de Manon, puisqu'on l'a vu descendre de son jet en crop top, il est aussi connu pour avoir élevé son caniche au grade de maréchal en chef de la force aérienne royale thaïlandaise. Un chien dont le décès en 2011 donnera lieu à des funérailles officielles, dont 4 jours de cérémonie bouddhiste. Manon Quentin, comment s'appelait ce héros de guerre? Ce héros de guerre au poil si doux.
On l'avait oublié.
Il s'appelait Foufou, Nick-Nick ou Colonel?
B.
Ah, oh, C.
Non, mais non.
Ah, ce serait beau.
J'aimerais qu'on termine sur une bonne réponse.
Ah,
oh oui, Manon, bravo!
Ouais, bravo.
Foufou, c'est complètement fou. Effectivement, on peut terminer là-dessus. Victoire, malgré cette bonne réponse de Quentin, lui.
Bravo.
Merci à tous.
Zoom sur la théorie du fou cet après-midi dans Zoom Zoom Zen avec Frédéric Charion, professeur des universités en sciences politiques et auteur de Géopolitique de l'intimidation chez Odile Jacob, un livre qui tombe à pic en ce moment. Frédéric, est-ce que les dirigeants qui jouent au fou profitent avant tout de la faiblesse supposée des démocraties?
Ah oui, alors supposée, parce que c'est toujours l'erreur un peu des autoritarismes. Mmh. Alors c'est vrai que les démocraties sont lentes à la détente, elles veulent d'abord négocier, elles essayent de repousser l'échéance, mais après elles sont capables de se mobiliser beaucoup plus. Mais l'erreur initiale, c'est toujours de tabler sur nos faiblesses. Alors, nos faiblesses, on en a quand même. D'abord, on ne veut pas croire au pire, jamais. On ne veut pas croire que l'autre est vraiment fou ou qu'il joue au fou. On pense que c'est du bluff et qu'il ne le fera pas. On aime bien se repaître de quelques nouvelles rassurantes alors que l'autre ne fait que jouer la montre. C'est-à-dire qu'il fait croire qu'il veut négocier alors qu'en réalité, il cherche juste à gagner du temps. Nous, on veut vraiment croire qu'il négocie.
Un peu ce qui se passe avec Poutine en ce moment.
Mais bien sûr. Et donc, oui, il y a des faiblesses, c'est évident. Nos médias aussi sont, évidemment, il vaut mieux des médias libres et démocratiques, mais il n'y a pas de réciprocité avec des régimes fermés. C'est-à-dire que les régimes fermés peuvent faire des fake news chez nous et il n'y aura pas de contre-offensive puisque chez eux, ils contrôlent tout. Mmh. Donc, bien sûr qu'il y a des faiblesses, mais ce n'est pas des faiblesses à long terme, je dirais.
Et qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer les menaces d'un fou? Et il faut absolument se mettre dans une posture où on lui dit, où il faut faire semblant de... Enfin, en tout cas, il faut essayer de lui faire croire qu'on ne croit pas qu'il est fou, qu'il n'ira jamais, qu'il ne mettra pas à exécution.
Ah, il faut quand même qu'il y ait du rapport de force. Il faut quand même qu'il y ait du rapport de force, je n'ai pas dit de la camisole, mais du rapport, oui. Du rapport de force, parce que il y a quand même derrière une peur. Je crois que dans cette posture-là, il y a aussi quelque part la peur de la confrontation à la réalité. Et donc, quand à un moment on montre les dents, il y a une espèce de dissonance, si je puis dire, chez l'autre, qui dit, on ne pensait pas qu'il serait capable de ça. Je pense que la personne qui joue cette stratégie-là ne croit pas un instant que nous, en face, nous sommes capables, nous aussi, de faire la même chose.
Poutine, Trump, Kadhafi, Kim Jong, Un, c'est un truc d'homme. On ne dit pas d'une femme qu'elle est folle.
Ah, on n'a pas en eu l'équivalent en relation internationale, en tout cas, d'une dirigeante. J'irais même plus loin. Aujourd'hui, celles qui s'opposent le plus, avec le plus de détermination à l'intimidation, ce sont souvent des femmes. Aussi bien dans les sociétés, les femmes iraniennes, par exemple, depuis longtemps, en Amérique du Sud et en Argentine, les maires de la place de Mai qui défilent à propos des disparus, etc. Des dirigeantes aussi, le cas Jacques Alas dans l'Union Européenne. Donc souvent, les femmes sont très déterminées à lutter contre cette posture-là. Mais là, on a affaire à des hommes forts qui jouent une fibre très viriliste. On le voit bien, d'ailleurs, ils ont ce point commun d'afficher une sorte de machisme, de misogynie assez forte. Fort Trump, c'est évident. Poutine l'a fait à plusieurs reprises, y compris qu'une journaliste américaine, Hadley Gamble, il y a quelques années, qui le traite extrêmement mal en se tournant vers le public en disant « Ah, c'est vraiment une très belle femme, mais elle comprend rien à ce que je lui dis. » Et on l'a vu chez d'autres. Et c'est vrai qu'il y a ce point commun très viriliste.
Où est-ce qu'on met dans ce tableau Javier Milei ? Lui, c'est la stratégie du fou, il est symptomatique de ça ou c'est autre chose ? Il est vraiment cinglé ?
Il y a une stratégie de subjugation. Il y a une stratégie de subjugation chez lui, de la com aussi, hein, l'histoire de la tronçonneuse, etc. Il est dans les traces d'autres avant lui. Aux Philippines, il y a eu Duterte, qui maintenant aujourd'hui
il est jugé.
Au tribunal, mais qui avait aussi dit, moi, les gens, les dealers et même les consommateurs de drogue, on va tous, etc. Il y en a eu d'autres. C'est de la stratégie de communication. Il n'est pas fou du tout, mais en plus, il est dans une situation économique absolument désastreuse. Donc la tronçonneuse, c'est un symbole. Non, c'est un communicant.
C'est un communicant, justement, puisque j'ai posé cette question à mauvais escient, puisque c'est le sujet de Manon aujourd'hui,
oui,
c'est la personne à suivre, Javier Milei, mais évidemment.
Je vous présente évidemment, Javier Milei, non pas Milei. N'est-ce pas ?
Javier Milei.
Il a 54 ans, il est argentin, il est le président de son pays depuis décembre 2023, une ascension à laquelle il n'était pas vraiment destiné à l'origine. Javier Milei est économiste. Pendant plus de 20 ans, il a enseigné l'économie à l'université, il a été employé chez HSBC et il est membre du groupe de politique économique de la Chambre de commerce internationale et du Forum de Davos. Mais Javier Milei s'est surtout fait connaître en Argentine pour ses apparitions télé polémiques. Avec sa coupe de rocker, sa veste en cuir, il détonne dans le milieu des économistes et il sait faire le show. Lui, son credo, c'est d'être le plus outrancier possible. Il insulte les gens en plateau, il est vulgaire, il est grossier et il fait parler de lui. Il va par exemple affirmer à plusieurs reprises que son héros est Al Capone, oui, l'un des plus célèbres gangsters de l'histoire. Certains médias le surnomment Milei le Madman, l'homme énervé, ou même le Trump de la Pampa. J'ai lu ça. Niveau politique, son discours antisocialiste et ses propositions économiques ultra-libérales lui permettent d'être rapidement soutenu par les Argentins déçu par les partis traditionnels. Il adhère au parti d'extrême droite du pays, le parti libertarien, en 2019 et il fonde en 2021 une coalition baptisée La Liberté Avance où il s'allie avec la droite dite traditionnelle en vue de gagner les élections de 2023. Et personne n'y croyait réellement dans le pays. Et pourtant, il arrive largement en tête des primaires. C'est donc en confiance qu'il commence sa campagne pour devenir président de l'Argentine avec ce qu'il appelle, vous l'avez dit, la politique de la tronçonneuse. Il veut diminuer au maximum les dépenses publiques et pour y arriver, il propose des mesures radicales comme la suppression des ministères de l'éducation, de la santé, des femmes, la libéralisation du port des armes pour les civils et du commerce d'organes. À plusieurs reprises, il débarque en meeting avec une vraie tronçonneuse dans les mains, un personnage totalement fou mais qui devient donc président de l'Argentine. Aujourd'hui, Javier Milei est considéré comme dangereux par de nombreux médias internationaux. Il est évidemment venu à l'investiture de Donald Trump, dont il est un fervent soutien. Il fait des déclarations antiféministes. Il est contre l'avortement, qu'il considère comme un meurtre. Il dit que les homosexuels sont pédophiles. Mais malgré tout, il est soutenu par plus de 55% des Argentins aujourd'hui.
Merci Manon. Frédéric Charion, est-ce qu'on a des nouvelles de ce qui se passe en Argentine ? On entend un peu tout et n'importe quoi. Alors, la plupart des médias dénoncent évidemment ce qu'il fait, mais parfois on entend que la pauvreté aurait baissé récemment en Argentine.
Oui, parce que c'est peut-être un retour à la normale, simplement, après le choc initial de ces mesures. Donc, en tout cas, apparemment, oui, il y a eu un gros pic de pauvreté et de personnes qui passent sous le seuil de la misère absolue. Maintenant, c'est en train de baisser. Parce que c'est peut-être un retour à la normale. Mais en fait, pour revenir sur ce que vous disiez très, très vite, souvent, là où ces gens ne sont pas fous, c'est qu'ils ont compris qu'il y avait une demande. Il y a une demande d'abord anti-politiquement correcte. Il y a un ras-le-bol vis-à-vis d'une espèce de communication politique un peu aseptisée.
Les éléments de langage.
Oui, exactement.
Il arrive en sauveur un peu.
Les gens n'en peuvent plus des éléments de langage. Donc, quand il y en a un qui arrive avec une tronçonneuse, ils disent il se passe quelque chose. Mais quand on regarde, moi je me souviens, quand je regardais il y a très longtemps le congrès républicain pour les primaires, la convention républicaine avec les primaires entre les candidats républicains, il était évident que Trump surclassait tous les autres, qui étaient gris, qui étaient aseptisés, qui étaient ennuyeux. Et on le regardait, il crevait l'écran. Et ça, ils l'ont tous très bien compris. Donc après, on peut dire il joue le fou. Oui, mais c'est aussi une façon de se démarquer de ce qu'ils estiment être une certaine médiocrité ambiante.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Enfin, après tous vos délires wokistes, vous traitez d'un sujet intéressant, avait lancé Pierre Courade radieux, avant de comprendre qu'on allait en fait traiter de la théorie du fou et pas du puits du fou, comme il l'avait espéré. Il avait même proposé qu'on invite Philippe de Villiers. « C'est un copain, si je lui demande, il viendra », nous avait dit Pierre. Ravi qu'on jette un coup de projecteur au seul parc d'attractions, c'est vrai, qui ne se vautre pas dans la repentance mémorielle. Hélas, Pierre, c'est donc stratégie du fou, vous allez nous résumer en une minute chrono.
Cette stratégie du « arrêtez-moi ou je fais un malheur », « arrêtez-moi ou je fais un petit carnet de 10 minutes 30 »,
Non,
et ça s'applique aux relations internationales, à faire croire qu'on est fou, qu'on est prêt à tout dans le but d'entretenir un rapport de force. C'est ce qui est venu nous expliquer Frédéric Charion, professeur des universités en sciences politiques, menacé d'utiliser l'arme nucléaire si les Occidentaux s'impliquent dans la guerre en Ukraine. C'est la stratégie de Poutine qui peut s'apparenter à cette théorie du fou. Il joue sur les faiblesses supposées des démocraties occidentales. Néanmoins, pour que ça fonctionne, il faut que la menace soit crédible. Le président russe possède bel et bien un arsenal nucléaire. En revanche, Karine Keller Zouter, la présidente de la Confédération Helvétique, ne pourrait pas jouer au fou en menaçant d'user une arme qu'elle ne possède pas. Celui qui l'a théorisé, cette stratégie, c'est Trump. Frédéric Charion nous a rappelé que lorsqu'on lui demande ce qu'il ferait si les Chinois attaquaient Taïwan, il répond qu'ils ne le feront pas parce qu'ils savent que je suis un dingue. Une stratégie qui masque finalement sa propre faiblesse, mais à force de jouer au fou, il ne va plus être pris au sérieux, ce qui pourrait le vexer, et c'est là qu'il pourrait devenir totalement imprévisible. Ainsi, pour que les menaces puissent être prises au sérieux, il faut montrer des preuves de sa folie. En ce sens, Poutine est le plus crédible, nous dit notre invité. Et voilà comment le fou perturbe aujourd'hui le grand jeu d'échecs mondial.
Quelle synthèse.
Magnifique synthèse.
Ah ouais, merci Frédéric. Ouais. Ouais.
C'est la première fois qu'un invité cautionne.
Non, c'est pas la première fois.
Le ton qu'il a pris, on ne connaissait pas ce ton bretin.
Ah non, mais c'est vraiment.
Là, mesdames et messieurs, vous avez entendu le vrai Pierre Courade, celui qu'on entend dans l'open space.
Pour établir la vérité.
Faut passer l'ENA, c'était vraiment.
Ah oui, carrément, l'ENA.
On peut le passer.
Vous me flattez. Je suis pas sûr que vous l'auriez. En tout cas, la Suisse a d'autres moyens de se défendre, mon cher Pierre. Merci beaucoup, Pierre Courade. Et pour conclure cette émission sur la théorie du fou, on a appelé celle qui est assez folle pour faire une chronique géopolitique à son retour de congé. Bonjour Lucie Carbone.
Oui, bonjour tout le monde. Bah, effectivement, moi je rentre tout juste de congé, donc j'ai envie de vous dire, ça va. J'ai atterri à Paris là tout à l'heure, j'ai même trouvé ma chute dans l'avion. Donc après, attention, c'est pas non plus pour ça que ça va voler haut. Hein. Donc moi, j'étais dans les Antilles là, et je me suis régalée. Le soleil, la nature, la paix. Genre, je pense que la dernière fois que j'étais aussi détendue, à mon avis, j'étais pas née. Une guerre aurait pu éclater, franchement, je n'aurais pas su. J'ai randonné toute la Guadeloupe, de fond en comble, je suis passée partout, j'ai même fait les placards, j'ai cherché des tortues sous l'eau, j'ai pas trouvé, parce qu'apparemment les tortues elles naviguent tôt, et moi pas du tout. Donc c'est vrai qu'on s'est pas croisés. Alors à un moment quand même, j'ai eu une petite poussée de stress, j'ai failli marcher sur un Bernard l'ermite. Oh. Ah ouais, là j'ai failli casser la maison de quelqu'un, juste avec une tongue, comme quoi les accidents domestiques, vraiment c'est vite arrivé. Quand soudain, tout à coup nonobstant, un soir de lâcher prise, je me retrouve en soirée à Marie-Galante au Touloulou. Une superbe affaire familiale, d'ailleurs que je vous recommande. Et là, j'entends « c'est chaud, c'est chaud ». Je me dis « oh là, ça va zouker, mon bassin, il est pas prêt ». Et là, on me répond « non, 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 Trump et Poutine, c'est chaud ». Oh, c'est pas vrai. Oh non, mais pas jusqu'ici. Je veux dire, vraiment, ça se fait pas. Parce que moi, j'avais pesé ma valise avant le décollage et je sais très bien qu'il n'y avait plus de place pour deux relous. Hein, donc, je ne les supporte plus, les deux. Dès que je les entends en discours, on dirait un vieux devant une fête des voisins. J'hésite à toquer, tu sais, à l'écran. Excusez-moi, vous pouvez faire un petit peu moins de bruit, s'il vous plaît, parce que demain, il y a des gens qui vont se mettre si cordialement. Surtout qu'en ce moment, c'est un peu l'escalade de la violence, mais sans rappel. C'est-à-dire que les deux, là, ils se mettent carrément à faire des petits concours de celui qui est la plus grosse. tête nucléaire. C'est-à-dire que la diplomatie, c'est plus du tout ce que c'était. Hein, parce qu'avant, on se parlait, tu sais, les gens, ils discutaient en noir et blanc, en fumant la pipe, façon film d'auteur. Alors, on peut céder l'Alsace-Lorraine? Non, on peut pas faire. Attends, c'est où déjà? Non, on va céder l'Alsace-Lorraine, on s'en fout. Okay. Et là, on n'est plus du tout sur un film d'auteur. Là, on est carrément sur des remakes des Visiteurs. C'est-à-dire que Trump et Poutine, avec l'arme nucléaire, ils jouent carrément à jacouille. J'appuie. J'appuie pas. Impeccable. S'il faut un jour, ils vont débarquer à l'ONU, regarder la Déclaration universelle des droits de l'homme et lui dire « Tu es un laidron, mais tu es bien bonne. » Je les crois capables. N'empêche, question, à quel moment les bouffons sont devenus les rois? Non, parce que c'est vrai que moi, dans la vie, parfois, j'ai du temps. Donc, je peux éventuellement postuler. Il n'empêche, attention, on arrive sur le petit virage féministe, on s'accroche, on va passer un petit dos d'âne. Heureusement que ce sont des hommes. Bah ouais, parce que si c'était des femmes, les pauvres, une femme qui tweet « I'm fucking crazy », à mon avis, tout Internet lui dirait « Normal, c'est la ménopause !» Sympathique. Alors qu'un homme qui tweete ça, bon bah il est élu président, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Et puis finalement, moi, dans tout ce bruit-là, ces menaces de guerre, le chantage affectif, nanana, j'appuie pas, je réclame la paix. Et une glace coco, parce que c'est vrai que ça me manque déjà, mais surtout la paix. C'est pourquoi je pense que je vais vous laisser là, parce que à mon avis, j'ai une petite sieste à faire. Ou une nuit, vraiment, je sais pas.
Vous avez dit que la chute a été écrite dans l'avion, ça sentait un peu. Et surtout, vous avez fait quelque chose de terrible. Vous m'avez donné envie d'une glace coco à 16h57. Je n'ai aucun moyen de sortir de ce studio. Je suis bloqué là. Il faudrait que quelqu'un aille me chercher une glace coco. Où est-ce, est-ce que les glaces Bertillon les plus proches sont pas très loin? On va organiser ça. Merci, Lucie Carbone. On se retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen. Merci Frédéric Charion. Je rappelle votre dernier ouvrage pour aller plus loin, La géopolitique de l'intimidation, seule face à la guerre, point d'interrogation, c'est dispo chez Odile Jacob. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi. Zoom, zoom, zen.